Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Solène Robin.
Bonjour, comment la parole vient-elle aux enfants? C'est la question sur laquelle s'est penchée notre invitée Bénédicte de Boisson-Bardy. Madame de Boisson-Bardy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans nos studios. Alors, comment la parole vient aux enfants, c'est le titre de votre ouvrage, paru il y a quelques années aux éditions Odile Jacob. Vous êtes psycholinguiste, spécialiste de l'acquisition du langage chez les jeunes enfants, et vous avez également publié aux éditions Odile Jacob Le langage, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour nos auditeurs, quelques précisions. Directeur de recherche au CNRS, Madame de Boisson-Bardy a dirigé l'équipe d'organisation vocale et gestuelle du laboratoire de psychologie expérimentale de l'université Paris 5. Son livre a été couronné en 1996 par le prix Jean Rostand. Petite précision, le prix Jean Rostand qui existe depuis 1978 récompense chaque année un auteur s'exprimant en langue française pour un ouvrage de vulgarisation scientifique. Comment la parole vient aux enfants a également été traduit en anglais et même très récemment en japonais et en coréen. C'est donc un ouvrage de référence dont nous parlons aujourd'hui. Alors, premier point, la parole, c'est ce qui vient en premier chez l'enfant. Et comme notre invité le décrit, l'enfant ne sait pas encore nouer ses lacets, coordonner ses mouvements pour attraper un ballon, qu'il a déjà à peu près compris toutes les phrases que lui adresse l'adulte. Les premiers mots viennent souvent avant la première année, mais dès son plus jeune âge, le bébé est déjà sensible à son environnement vocal et il reconnaît la voix de sa mère. Alors, Madame de Boisson-Bardy, première question pour commencer. Qu'est-ce que le langage? Qu'est-ce que la parole?
Le langage, donc, c'est le moyen de communication des êtres humains. Et la parole, c'est sa réalisation physique. Alors, toutes les langages se réalisent aussi à travers des langues qui sont différentes dans le monde. Mais toutes les langues possèdent à la fois une structure phonétique et prosodique. Ce sont des systèmes fonctionnels où un sens est lié au son. Donc, l'enfant va avoir à apprendre un système relativement très complexe. Quand je vous dis bonjour, comment allez-vous? Vous entendez 15 sons à la seconde et il y a eu 100 muscles qui se sont mis à bouger. Donc, comment est-ce qu'un enfant tout petit va commencer à percevoir et à traiter la parole avec une rapidité telle que la plupart des enfants ont prononcé des mots à 2 ans et font même quelques petites phrases?
D'accord. Et juste, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la prosodie dont vous avez parlé il y a quelques
temps? Alors, la prosodie, c'est l'intonation. C'est l'intonation d'une langue, la forme qu'on met sur les phrases. C'est l'intonation, la prosodie.
Alors, dans votre ouvrage, vous citez Darwin. Darwin a dit « Le langage n'est certainement pas un véritable instinct, car tout langage doit être appris. Il diffère toutefois beaucoup de tous les arts ordinaires, en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler, comme nous le prouve d'ailleurs le babillage des jeunes enfants. » Alors, est-ce que l'aptitude à parler des enfants est génétique?
Oui, alors, pendant longtemps, on a pensé que l'enfant apprenait à parler en imitant, mais heureusement que vers les années 70, Noam Chomsky a présenté une hypothèse beaucoup plus intéressante en postulant des dons innés chez l'enfant. Et en effet, dans le patrimoine génétique de l'être humain sont inscrits des aptitudes qui vont lui permettre justement de décoder et d'appréhender le langage relativement rapidement pour pouvoir parler.
Ça veut dire que tous les enfants peuvent parler?
Tous les enfants peuvent parler, ces dons et ces sont inscrits dans le patrimoine génétique de tous les enfants, mais comme ils ne peuvent se révéler et se développer qu'en interaction avec ce qu'ils vont entendre des adultes, qui vont lui donner un modèle de comportement et un modèle de langue, ils apprendront à parler des langues différentes. Donc l'enfant est doué dès sa naissance pour parler, et il va apprendre à parler une ou deux langues selon les langues qu'il entend dans son environnement. Et tout le problème qui s'est posé aux psycholinguistes a été de dire, c'est très joli de dire qu'il y a des dons inscrits dans le patrimoine génétique, mais quels sont-ils? Et comment les voir? Parce qu'il fallait les trouver chez des nourrissons, étant donné que le langage se développe extrêmement vite.
Alors, est-ce qu'on l'a trouvé?
Alors, on l'a trouvé, on a cherché, parce que d'abord, on a eu une méthode pour interroger les bébés. Ce qui était difficile à trouver, c'était qu'est-ce que fait un bébé ? La seule chose qu'ils savent faire, c'est téter. Donc, on s'est servi de cette capacité et on a utilisé une méthode qui consistait à donner une tétine aux enfants qui mettaient automatiquement à téter. Et cette tétine était reliée, par exemple, à un son. L'enfant est une petite machine à apprendre dès la naissance. Il a un cerveau absolument qui a beaucoup plus de neurones que le plus brillant des polytechniciens. Donc, il cherche, il est tout de suite intéressé par les choses de la vie. Donc, il commence à téter et quand il tétait, un son lui était présenté. Donc, il tétait pour apprendre ce son. Alors, une des premières choses qu'on a cherchées, c'est de savoir s'il avait cette capacité qui permet de distinguer les phonèmes, c'est-à-dire les sons de la langue. Parce que si cette capacité, il l'avait dès la naissance, ça expliquerait comment il arrivait à traiter le langage. Alors, par exemple, on faisait entendre à l'enfant un son « ba, ba, ba ». Et alors, il tétait pour l'entendre, puis au bout d'un moment, il se lassait. Je veux dire, l'enfant, c'est un bébé de 2 ou 3 jours, hein, entendons-nous. Et puis, il se lassait, il s'arrêtait. Et à ce moment-là, on changeait le son. On mettait, par exemple, « da », qui est différent de « ba » par la place d'articulation. Et à ce moment-là, on a fait l'hypothèse que si l'enfant voyait une différence, ça l'intéresserait, le nourrisson, hein, je vais devoir dire, ça l'intéresserait et il recommencerait à sucer. Et c'est ce qui est arrivé.
C'est-à-dire que sinon, il s'habitue.
Il s'habitue, ça baisse. Et puis, quand il voit que c'est différent, son intérêt s'éveille et le nourrisson recommence. Et on s'est aperçu que, dès la naissance, l'enfant était doué de cette perception catégorielle, c'est-à-dire qu'il pouvait catégoriser les sons, les mettre dans des catégories qui allaient lui permettre à traiter les sons de la langue. Et ça, c'est une aptitude qui n'est pas dans les sons, mais qui est dans l'être humain. C'est un don de l'évolution. D'ailleurs, on le retrouve chez certains animaux, mais c'est l'être humain qui s'en est servi pour structurer son moyen de communication, c'est-à-dire le langage.
Vous disiez que seul l'enfant est doué de parole par rapport aux animaux, certes, mais est-ce que l'enfant peut catégoriser les sons qu'il entend à la radio ou des êtres humains? Est-ce qu'il y a une préférence?
Non, on n'a jamais isolé un enfant avec de la radio pour savoir s'il apprendrait à parler. D'ailleurs, sans doute pas. Il pense qu'il faut une communication humaine qui passe par la voix. Et puis, si le langage est le moyen de communication privilégié des hommes, et il est aussi le moyen de structurer la pensée et de penser, mais comme moyen de communication, il s'appuie sur le regard, sur la voix de la mère, sur l'entourage. Et au début, c'est extrêmement important pour qu'un enfant apprenne à parler. Si on isolait un enfant, et on l'a vu, et qu'il n'entendait pas de langage, il ne se mettrait pas à parler. Malgré ses aptitudes innées, il faut qu'il y ait cette interactivité avec ce qu'il reçoit et ce qu'il va pouvoir traiter dans le langage.
Mais alors, qu'en est-il de ces histoires d'enfants sauvages qui sont isolés de la culture pendant des années?
En général, ils n'apprennent pas à parler. Puis alors, c'est très difficile, c'est expérimental.
Est-ce qu'ils peuvent rattraper?
La plupart du temps, si c'est trop longtemps, ils ne peuvent pas rattraper. Il n'y a pas de cas net, parce qu'on ne sait jamais s'ils n'ont pas été abandonnés parce qu'ils avaient des débilités ou des problèmes spécifiques. Mais il y a eu une histoire d'une petite fille qui a été retrouvée vers 12-13 ans et qui avait été isolée depuis l'âge de 1 an. Elle a récupéré, on a réussi à lui apprendre des mots et à parler un peu, mais elle avait été isolée qu'après 1 an. Hein. Mais elle n'a jamais pu avoir un langage normal et grammatical. Enfin, ça,
d'accord.
C'est un cas.
Et les enfants sourds, alors?
Alors, les enfants sourds, c'est tout à fait différent. Ils ont des aptitudes pour le langage qu'ils n'entendent pas. Donc, c'est toujours, ça ne peut pas être interactif avec la parole. Mais si on leur parle, par exemple, une langue des signes, c'est-à-dire, à ce moment-là, ils se développent puisqu'ils ont de l'aptitude pour parler. Et il y a d'autres façons de faire passer, si vous voulez, ou de développer cette aptitude à une langue. Parce que c'est la langue des sourds qui est une langue comme les autres, mais qui est visuelle au lieu d'être auditive.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réelle aptitude génétique à parler qui se développe chez tous les êtres humains d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Alors, en dehors de l'aptitude à catégoriser le son, le bébé est extrêmement doué dès le départ, même dès avant la naissance, pour voir tout ce qui est les petites différences temporelles et fréquentielles qui vont lui permettre dans des phrases de voir où sont le rythme de la phrase, où elle s'arrête, où elle repart, les petites différences temporelles, les petites chutes d'intonation, etc. Alors, alors ce sont les deux principales, j'allais dire, aptitudes qui vont lui permettre d'aborder le traitement du langage.
Et donc ça, ça se passe dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère.
Dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, on sait que son système auditif est mature et il peut entendre dans les deux derniers mois. Il va entendre des sons, naturellement, qui sont un peu filtrés. Et il est très sensible à la voix, à la musique. Et on a pu montrer, par exemple, que s'il a une mère, ou d'ailleurs ça peut être même une autre femme, qui lit une petite histoire bien intonée pendant les deux derniers mois de la naissance, ou qui la présente même avec un micro près du ventre, et quand l'enfant naît, eh bien avec la méthode de succion non nutritive, on verra qu'il préfère écouter cette histoire à une autre histoire qui a un rythme différent.
Donc il s'habitue à la voix de sa mère, à la fois, mais
aussi au rythme. Et aussi au rythme.
D'accord. Alors, une fois que l'enfant naît, justement, pourquoi ne parle-t-il pas dès sa naissance ? Alors, ça peut paraître une question basique et naïve.
Parce que autant le système auditif, je dirais, complet, il peut entendre, autant tout le système vocal n'est absolument pas prêt à parler. L'enfant ne maîtrise même pas sa respiration au début, donc ni son articulation. Je vous ai dit, quand je vous ai dit bonjour, comment ça va, il y a déjà 100 muscles qui se sont mis à la parole et l'enfant ne maîtrise absolument pas tout le système phonatoire à la naissance.
Alors, je me permets de citer un petit passage de votre ouvrage concernant justement les aptitudes, les besoins fonctionnels anatomiques pour parler. Vous dites que l'appareil physique, alors là chez les adultes, hein, c'est une généralité, permettant la parole articulée à évoluer avec la station debout, celle-ci a permis au système respiratoire et phonique de prendre une orientation verticale. Dans le même temps, la partie postérieure du système articulatoire devenait verticale, mais non la partie supérieure. Il en résulte ce fameux tube coudé qui distingue l'homme des autres primates dont le tube vocal est diagonal. C'est-à-dire que chez l'homme, donc, au niveau anatomique, on a une forme de coude au niveau du système vocal, là où les primates ont une forme plus diagonale.
C'est ça, il y a tout un système qui permet à l'homme de faire des sons, de les interrompre, et justement tout un système articulatoire.
Alors le bébé, il ne l'a pas.
Et le bébé ne l'a pas. Ne l'a pas au début, ça met... Enfin, j'allais dire au bout, quand il va commencer à babiller, c'est-à-dire à 7-8 mois, il y a déjà eu beaucoup de progrès, mais on voit que les mouvements fins avec la lèvre et les langues, ils peuvent mettre beaucoup de temps. Vous voyez, les enfants mettront beaucoup de temps pour pouvoir dire Alix, ils diront Alisque. Jusqu'à 2 ans ou 3 ans, il y a encore des problèmes dans l'articulation, souvent chez certains enfants.
Mais tout jeune également, vous dites tout jeune chez l'enfant que dès 3 mois, le palais s'avance, s'abaisse et peut fermer l'arrivée d'air au nez. Dès 5 mois, les enfants peuvent utiliser l'activité respiratoire, le larynx, comme les adultes. Alors, c'est très technique, en fait, le langage.
Oui, c'est très technique. Je vous dis bonjour, comment allez-vous ? Il y a 100 muscles qui se mettent en marche. Donc, alors c'est pour ça qu'au début, le bébé ne peut faire que des sons végétatifs. Et puis après, quand il maîtrise un peu plus sa respiration, ben, il commence vers 2-3 mois à faire des vocalisations. Et puis, vers 4-5 mois, il adore faire des vocalisations. Il joue avec sa voix. Il va très haut, il descend et tout. Et ce n'est qu'à 7 ou 8 mois qu'il commence à faire des syllabes qui ont la forme et la structure des syllabes adultes. C'est les fameux « abba »,« ada », »,« baba », »,« bababa », etc. qui commencent. On voit très bien, c'est très différent de ce que l'enfant fait avant. Ça arrive assez subitement. Et là, il rentre dans les possibilités de normalisation phonétique qui vont lui permettre de parler.
Alors justement, cette question de ce qu'on va appeler le babillage, on va y revenir un petit peu ultérieurement. On va marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Thank you. Canal Academy.
On retrouve Bénédicte de Boisson-Bardy pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la parole chez les enfants. Alors, nous l'avons vu précédemment, tous les enfants peuvent parler. Les enfants, par contre, quand ils sont tout jeunes, ne peuvent pas encore produire de son parce que leur anatomie n'est pas encore prête pour cela. Et puis, petit à petit, ils se mettent à vocaliser. Alors, je vais citer votre ouvrage très brièvement. Vous dites, page 51, que le nouveau-né crie en arrivant au monde. À moins de maladie, la production de son ne cesse pas chez les êtres humains. De leur premier cri à leur dernier souffle, de la première syllabe au dernier mot, l'homme est une machine à engendrer la parole. Vous dites ensuite qu'entre 2 et 5 mois, le bébé ne vocalise qu'en position couchée. Aussi, leur production, les célèbres areux et agueux, inclut-elle presque uniquement des sons issus du larynx et du vélum. Le nourrisson ne maîtrise pas sa phonation, ce n'est que vers 4 ou 5 mois qu'il devient capable de moduler les variations de sa voix. Ces vocalisations deviennent alors progressivement volontaires. Vocaliser est de fait un des premiers comportements volontaires chez l'enfant. Il développe toute une série de jeux vocaux, au cours desquels il manipule aussi bien les traits prosodiques de hauteur de voix, le niveau sonore que les traits consonantiques. Les premières voyelles arrivent aussi pendant cette période. Et donc, à la 16e semaine, on entend les premiers rires et cris de joie émis avec la bouche grande ouverte. Alors, quels sont ces premiers sons? Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
Les premiers sons des bébés, ce sont des sons, je vous dis, des vocalisations. Alors là, ça peut être extrêmement varié, ça peut être des cris, ça peut être des « ah », c'est extrêmement varié. Ça reste assez varié. On a longtemps pensé justement que le bébé pouvait faire tous les sons du monde et n'importe quoi. On verra au moment du babillage que c'est pas tout à fait que ça. Parce que l'enfant a commencé déjà à 6 mois, par exemple, il a déjà normalisé son écoute. Il reconnaît, il est plus sensible aux voyelles, par exemple, de sa langue qu'aux voyelles d'une langue étrangère. Donc, ça va forcément un tout petit peu agir sur la façon dont il va commencer à babiller et à parler. C'est pour ça que nous, on a pu... Le babillage, donc, je l'ai déjà dit, c'est le moment où il commence à faire des syllabes articulées qui sont le fondement de toutes les syllabes dans les langues, hein, qui ont la forme des syllabes dans les langues. Et à ce moment-là, on va voir, au début, il va faire des syllabes de même type, parce qu'il va ouvrir la bouche, il va faire un peu des mêmes sons, parce qu'il a toujours des contraintes sur son appareil vocal. Alors, c'est les ba-ba-ba, pa-pa-pa, da-da-da, enfin, etc.
Alors, qu'on connaît. Je me permets juste de citer un tout petit passage de votre livre qui m'a beaucoup fait sourire, où vous parlez de ce babillage et de ces débuts du babillage. Vous dites, page 60, les débuts du babillage aussitôt perçus par les adultes sont généralement très brusques. Au son incertain des jours précédents succèdent les premiers papapa ou bababa nets et bien articulés, immédiatement repérés par les adultes, et la suite est très drôle. Ceux-ci ont parfois tendance à les interpréter comme des ébauches de premiers mots. Quelques pères un peu pressés clament que l'enfant a dit son premier mot et que ce mot est naturellement papa.
Oui, c'est exact, ça ressemble. Surtout que l'enfant va très vite babiller, j'allais dire, en prenant des caractéristiques qui sont dans sa langue. C'est-à-dire, à partir de 10 mois, un enfant français, anglais, arabe, c'est ce qu'on avait fait, ne babille pas tout à fait de la même façon.
Juste, le babillage, on peut situer qu'il commence à peu près vers quel mois?
Vous savez, c'est très difficile. Il y a une grande variabilité entre les enfants. Mettons que c'est entre 7 et 10 mois.
D'accord.
Il y a une variabilité. Il y a des les enfants sont très variables. Ça sera la même chose pour les premiers mots. Il y a des enfants qui disent leur premier mot à 10, 11 mois et d'autres à 18 mois. C'est un pronostic à faire sur les capacités intellectuelles de l'enfant. Donc, il y a une grande variabilité dans le début du babillage, mais tous les enfants babillent. Les enfants sourds ne babilleront pas alors, parce qu'ils n'ont pas justement.
Alors, il me semblait que dans votre ouvrage, vous expliquiez que les enfants sourds babilleraient, mais plus tard.
Plus tard,
parce que. Mais ils babillent quand même.
Plus tard, ils feront des sons parce qu'ils auront vu les mouvements de la bouche des adultes, c'est quand même une chose, mais ils babillent plus tard.
Donc, ils babillent plus par imitation?
Imitation des mouvements de la bouche. Vous savez, le bébé, très très tôt, dès la naissance, on voit des bébés imiter les mouvements de la bouche. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas sur les aptitudes du bébé et ses capacités et tout ça, mais c'est exact. Le bébé a aussi des aptitudes pour la communication. Donc, le visage de l'adulte et ce que va faire l'adulte en face de lui, il a tendance à l'imiter départ. Simplement, si vous voulez, les sons et les choses, je ne dis pas qu'il imitera naturellement ce que dit l'adulte. On n'apprend pas à parler en imitant.
D'accord, très bien. Mais justement, vous évoquiez ces expériences qui ont été faites avec des enfants américains ou anglais, arabes. Qu'est-ce que ça a permis de déceler? C'est sur la discrimination des sons, il me semble.
C'est-à-dire, ça a permis de déceler qu'on retrouve déjà des caractéristiques de la langue. Parce que le petit enfant anglais va dire « da, da, da », alors que le petit enfant français dira plutôt « da, da, da », et l'arabe fera « da, 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 da ». Enfin, j'exagère un tout petit peu, oui, et je caricaturise, mais c'est à peu près ça qu'on s'est rendu compte. Donc, la forme de la langue maternelle, la structure de la prosodie et la qualité des voyelles influençaient assez tôt le babillage. D'ailleurs, normal, parce que quand l'enfant va se mettre à parler, le petit enfant français dira en effet « papa » ou « maman », et l'enfant anglais dira « daddy », avec pas le même type « da » que le petit enfant français.
Et vous évoquiez également une espèce de suite à cette expérience. On a fait écouter à des parents des voyelles et des syllabes prononcées par les jeunes enfants, en demandant aux parents de discriminer les origines.
Oui, c'était pas forcément les parents, c'était des adultes. D'accord. On faisait entendre des babillages de différentes langues, chinois, français, anglais, arabe, et on demandait aux enfants lequel ils pensaient qui était le chinois, le français, et finalement ils reconnaissaient assez bien. Enfin, assez bien, il y avait quand même. Mais ils reconnaissaient de façon significative, comme on dit dans notre jargon, les différents babillages.
L'enfant français babille en français et l'enfant anglais babille en anglais. Voilà. Alors, comment passe-t-on déjà de la prononciation de syllabes isolées à des syllabes, ce qu'on appelle dissyllabes?
Ça, on le fait très vite. D'ailleurs, dans le babillage, dès le départ, il y a des dissyllabes. L'enfant peut très bien faire dada ou appa, ce qui est une dissyllabe. Donc, ça se fait. Si vous voulez, le langage va se greffer sur le babillage. Il n'y a pas de solution de continuité. L'enfant, d'ailleurs, généralement, il choisit ses premiers mots dans les sons qu'il sait faire. Ça va être pour lui une aide et il va un peu choisir ses premiers mots dans les sons qu'il sait faire. Un enfant qui a fait beaucoup de ga 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 dans son babillage à ga va souvent choisir des mots en effet qui ont ce qu'on appelle des vélaires, quoique chez
les. Alors les vélaires, pour situer un petit peu
c'est le ga ka, c'est ce qui est fait.
Voilà. Alors il y a les labiales aussi.
Mais en fait, ce sont les labiales qui sont le plus utilisées pour les enfants d'ailleurs. Les b, p, m, donc vous voyez quand des mots comme bébé, bain, ballon, maman, papa, tout ça sont des labiales.
Tout s'explique, maman et papa sont des mots simples à prononcer.
Et voilà, et alors du coup, quand les parents ont parlé aux enfants, aux bébés, hein, quand les parents parlent aux bébés, ils utilisent des intonations et une forme de parole un peu spéciale qu'on a appelée le mosérisme parce que c'est le terme anglais. Ils parlent plus doucement, avec des intonations bien marquées, une voix généralement plus haute, des pauses plus longues. Tout ça, ça aide le bébé d'abord à comprendre que c'est à lui qu'on parle, parce que les bébés préfèrent écouter des mères parlant à leur bébé que des adultes se parlant entre eux. On a fait des expériences. Même si c'est une mère étrangère, une mère chinoise parlant à son bébé chinois, le bébé préfère écouter ça qu'une femme chinoise parlant à un adulte chinois. Ils reconnaissent, donc ils savent que c'est adressé à eux. En plus, c'est très affectif comme langage, donc ça met le bébé à l'aise. Et troisièmement, ça l'aide, parce que c'est plus lent et tout ça, ça l'aide à traiter le langage.
Parce qu'on critique parfois justement la théâtralisation des mamans qui parlent à leurs enfants, à tort apparemment.
Non, c'est-à-dire, il ne faut pas parler bébé, un langage bébé, mais ce langage-là, c'est naturel. Vous dites à l'enfant, bon, tu vas mettre ton manteau, puis on va aller se promener et on va faire une jolie promenade. Il est certain qu'à l'adulte, vous diriez, bon, mets ton manteau, on va aller se promener, on va faire une jolie promenade. Bon, vous aurez une intonation différente, mais ce n'est pas un parler bébé, c'est une phrase grammaticale et qui utilise des mots de la langue.
Hein. C'est-à-dire qu'on doit parler aux bébés, aux jeunes enfants, de la même manière qu'on parlera à un adulte, c'est juste l'intonation, le rythme qui se modifie.
Et qui est modifié, j'allais dire, presque indépendamment de ce instinctivement. Que vous pensez faire. C'est quelque chose de très instinctif. Oui, les mères et les pères, d'ailleurs, on appelle ça mosérisme. N'importe quel adulte le fait.
Oui, vous citiez l'exemple d'une conversation qu'on surprendrait dans un bus d'une personne au téléphone et on pourrait tout de suite savoir si elle s'adresse à un jeune enfant par l'intonation qu'elle utilise. Et justement, ce babillage, comment évolue-t-il jusqu'à ce qu'il y ait les premiers mots et la notion du sens ?
Les premiers mots, j'ai dit qu'ils venaient du babillage, mais en fait, il faut voir que l'enfant est une petite mécanique de précision. Je vous l'ai dit, il distingue, toi, la naissance, c'est une vraie petite mécanique de précision. Il distingue les pauses. Bon, et puis, au bout d'un moment, d'ailleurs, on fait des expériences à 6-7 mois. Si vous présentez aux enfants des mots, par exemple, des petites phrases avec un mot comme, je ne sais pas moi, parc à l'intérieur, au bout d'un moment, il va reconnaître le mot parc. Et puis, tout d'un coup, vous lui présentez la même phrase avec le mot barque. Eh bien, il va distinguer les deux et reconnaître. Mais il se passe un moment où l'enfant commence à voir que les objets peuvent être nommés. Et alors, à ce moment-là, c'est différent. Si vous lui présentez un mot qui a une différence, par exemple, vous lui dites, tiens, on va jouer au ballon, il comprend. Mais si vous lui dites, on va jouer au ballon, il ne verra pas la différence, parce que ce qui l'intéresse à ce moment-là, quand il commence à voir que les mots ont un sens, c'est de ramener et c'est de chercher le sens des mots. Et alors à ce moment-là, l'enfant n'est plus une mécanique de précision. Il n'est plus attentif aux moindres discriminations, il est attentif à la recherche du sens. Et ça se passe, mettons en gros, vers 9 mois, entre 9 mois et 1 an. Et on voit que l'enfant, à ce moment-là, a commencé à comprendre que chaque chose a un nom, que chaque concept peut être nommé. Donc, d'ailleurs, vous allez voir l'enfant qui va pointer avec le doigt et qui va commencer à demander à ce qu'on nomme. Alors ça, c'est une étape extrêmement importante. Il a compris l'arbitraire, son sens, et il commence à être particulièrement intéressé par le sens. Il rentre réellement dans le langage à ce moment-là.
Donc ça se produit à partir de 9 mois, donc on a les premières bribes, les débuts de cette compréhension du sens vers 9 mois.
Mais vers 9-10 mois, vous voyez, on a fait des expériences qui montrent que l'enfant ne fait plus aussi attention au changement de phonème à 10 mois quand c'est des mots qu'il a entendus fréquemment et qui ont un sens pour lui.
Alors je suppose que cette recherche du sens devient exponentielle au fur et à mesure des mois.
Après ça, oui. Après ça, l'enfant de nouveau va refaire attention au phonème puisqu'il faut qu'il se construise un lexique qui va être notre lexique, et à ce moment-là, il faudra qu'il fasse attention que bain, pain, main, tout ça, ce sont des mots qui ont un sens différent grâce au premier phonème.
D'accord. Mais vous parliez des sens, des mots que l'enfant reconnaît. Qu'en est-il de son prénom ?
Alors, on dit qu'il le reconnaît assez tôt, en effet, parce qu'il revient beaucoup. Donc, les formes récurrentes qui reviennent, l'enfant est très sensible aux fréquences. Hein. Dès qu'on lui présente des choses très fréquemment, immédiatement, c'est enregistré dans sa petite tête. Il est très sensible aux fréquences. Donc, il va entendre son prénom très souvent. Et on dit que l'enfant reconnaît son prénom à 5-6 mois.
Ça, c'est relativement tôt.
C'est encore, oui.
Mais c'est une reconnaissance qui n'est pas porteuse de sens.
Non, simplement, c'est comme un peu le mozarise, ça a un statut spécial, on s'adresse à lui, c'est affectif.
Vous parlez de cette évolution qui arrive vers 9 mois, la recherche du sens. Vers 10-12 mois, on arrive vers la fin du babillage, les premières phrases, enfin les premiers mots. Comment est-ce que les choses évoluent après, de manière très succincte, jusqu'à, on va dire, aux 5-6 ans de l'enfant ?
Alors, d'abord, je voudrais dire, jusqu'à 9-10 mois, l'enfant part sur quelque chose de très universel, qu'il a reçu des aptitudes universelles. Et après ça, ben, l'enfant va commencer à choisir. Il y aura de la variabilité en fonction de son tempérament, en fonction des langues qu'il aura entendues. L'âge du premier mot est très variable, entre 10 mois et 18 mois ou même plus.
Ça n'a pas d'impact sur la qualité du langage ultérieur ?
Non, absolument pas. Ça dépend beaucoup du tempérament de l'enfant. Les enfants vont commencer à faire des petites phrases avant 2 ans, en général, des petites phrases de 2, 3, 4 mots. Alors, il y a une